au réseau Cogeco.
C'est l'heure de vous occuper de vous. Parlons-nous. Santé. Des symptômes aux remèdes. La docteure Christiane Laberge aborde avec vous la santé sous tous ses aspects.
Voici Christiane Laberge.
Bonsoir tout le monde. On est vraiment très heureux de vous retrouver. Il y a Geoffroy Morin de l'autre côté qui prend soin de nous. Il y a Maxime Lachance qui est en face de moi comme collaborateur. Et ce soir, on a une émission pour vous qui va vous changer de la COVID. On parle d'une maladie qui a été déclarée relativement récemment par l'OMS comme un problème de santé. Et ça s'appelle l'obésité. Et ce qui nous avait inspiré sur ce sujet-là, c'est que la semaine passée, on avait un auditeur qui nous a beaucoup émus. C'est une personne, un homme, qui disait que lui, il avait 125 livres à perdre, qu'il avait perdu 30-40 livres et que chaque fois qu'il arrivait à ce plateau-là, cette valeur, mais il arrêtait puis il reprenait son poids. Et ce qu'on doit faire, c'est garder ce poids qui est peut-être 10 % de son poids à perdre et on est content pour un grand bout de temps pour stabiliser ses hormones puis savoir comment on descend par palier. Alors, on va parler des mythes et réalités parce que là les histoires de « Hey, il a juste arrêté de manger puis bouger le derrière puis ça va fondre. » No.
Encore beaucoup de préjugés.
Absolument.
Concernant l'obésité.
Absolument.
Ce soir, ben en fait, vous allez démêler tout ça.
Exact.
On va défaire des mythes.
Oui, oui. Des mythes et des réalités.
Exact.
C'est ça. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai.
Et on va ouvrir les lignes éventuellement pour que les gens nous appellent.
Absolument.
Des témoignages. Parce
vos questions.
Exact, les questions et beaucoup de grossophobie. Et
absolument.
Ça a des conséquences absolument sur tous les points
absolument,
de la vie d'une personne.
Absolument,
de chercher là-dessus. Oui, je peux vous donner tout de suite ce que j'ai. Selon une étude de Finlande, on dit que les gens qui sont en situation de surpoids, à chaque fois que l'indice de masse corporelle augmente d'un point, le salaire diminue de 6,6 %.
Ouais.
Donc, c'est pas juste au niveau physique, c'est au niveau
social,
salarial. Oui. On dit que la carrière est plus courte aussi. Ils ont une plus grande probabilité de devoir recourir à l'aide sociale. Et au Canada, là, on parle de près de un quart des adultes qui peuvent être considérés comme obèses.
Oui.
Et quand on regarde sur la ligne du temps, mm-hmm. en comparaison, exemple, avec 1979, on dit que c'est deux fois plus. Donc, ça va en augmentant. Et si on regarde l'obésité extrême, en 1985, c'était 0,3 % de la population.
Mm-hmm.
2015,
ouais.
1,6.
Oui.
Alors, les chiffres vont en augmentant aussi.
Tout à fait. Et on se pose la question, pourquoi?
Exact. Pourquoi?
Bien, je vais te dire qu'on en ignore plus qu'on en sait. Hein, ça part mal, ça. Hein? On va parler de ce qu'on sait. On va parler de ce qu'on étudie et qui n'a pas encore de preuves hors de tout doute. Et on va parler des différentes avenues qui sont à l'étude actuellement. Parce qu'on a longtemps dit, c'est dans ma famille, c'est génétique. Bien, croyez-le ou non, aujourd'hui, on revient à l'hypothèse génétique. On revient aussi à ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que tu peux avoir une génétique, mais où tu as toujours eu une espèce de protection. Puis, à un moment donné, arrive, par exemple, une dépression, une perte d'emploi, une pandémie, où tu vas changer à 180 tes habitudes de vie et pouf, tu deviens obèse, alors que tu en as d'autres qui vont maigrir, vont fondre comme neige au soleil. Pourquoi? Pourtant, c'est la même réaction anxieuse ou la même... Pourquoi on ne réagit pas tous de la même façon? Bien, c'est exactement ça qu'on appelle la génétique aussi. On a des réactions qui sont inscrites dans notre système que tant que tu n'as pas besoin, tu ne t'en sers pas. Mais à un moment donné, quand arrive un traumatisme, bien oui, tu peux développer certaines façons de calibrer ta nourriture, de la digérer. Par exemple, je vais te parler du stress, OK? On parle juste du stress, Maxime.
Allez-y.
Alors, on parle du stress, par exemple, Sonia Lupien, que vous connaissez, la docteure en neuropsy de l'Institut du stress humain. Et par exemple, quand on a beaucoup de cortisol parce qu'on est stressé à l'année, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, parce que problème d'argent, n'importe quoi, on va d'abord moins bien dormir. Donc, une mauvaise qualité de sommeil va faire que tu as des substances qui vont moins se nettoyer, qui vont moins être sécrétés. Donc, ça, c'est un premier facteur. Deuxièmement, le cortisol, ça monte le sucre naturellement dans le sang. Donc, théoriquement, tu peux avoir un petit peu plus d'obésité. Tu peux avoir plus faim aussi par compensation parce que tu en dépenses plus, tu en as plus besoin. Il faut que tu arroses ton cerveau encore plus. C'est quoi le carburant du cerveau? c'est les glucides. Donc, tu vas avoir des faims pour certaines affaires. Alors, entre autres, tu vas avoir une augmentation de pression artérielle. Tu vas avoir des conséquences de ce type-là. Si tu te calmes le pompon, ça se peut que spontanément, tu sais, tu as des gens qui disent, moi, j'ai arrêté mon travail, puis, oups, j'ai perdu 20 livres sans le demander. Je suis revenu à mon poids normal. Bien, il y a des conséquences qui peuvent ressembler à ça. Donc, c'est pour ça qu'on en ignore beaucoup plus qu'on en sait. D'autre part, on sait que la nourriture est modifiée énormément.
C'est là que j'allais vous amener.
Ben oui, vas-y.
Ben en fait, j'allais dire, évidemment, il y a le côté génétique.
Ouais.
Mais de la manière... En fait, ce qu'on mange a changé sur une période de 40, 50 ans, 100 ans. Au niveau des pesticides, au niveau du sucre aussi, il y a du sucre
dans... fait.
Pas mal plus de choses qu'avant aussi.
Absolument. Du sel.
Du sel.
Avec la rétention d'eau. Et on a aussi, au niveau des préservatifs dans les aliments, on a les pesticides dont on refuse, par exemple, on a certains pesticides, le Roundup, entre autres, les glyphosates, où on a étudié le glyphosate. Mais on n'a pas étudié, par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez un champ de maïs, un champ de carottes, puis un champ de patates. Bien, les trois ont des pesticides différents. Mais sauf que dans ton eau d'arrosage, tu as un petit bout de chacun, hein?
Ben
donc,
oui.
T'arroses, mais on n'a jamais étudié le croisement, le cocktail. Tu sais, tu vas prendre une Valium, tu vas dormir, tu vas prendre une bière, c'est pas pire. Prends les deux ensemble pour voir. Ils se potentialisent.
C'est un bon exemple, ça.
Donc, on n'a pas fait ça avec les pesticides. Et on sait qu'il y a des pesticides qui miment les hormones. Les hormones féminines et féminines, c'est fait pour avoir une masse graisseuse un peu plus grande que les hommes. Les hommes ont une masse musculaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on remet en cause les gens qui sont en transformation puis qui ont plus de testostérone. Vont-ils être des gagnants parce que musculairement, ils sont plus solides que les femmes féminines, là, je dirais hormonées féminines. Alors, tout ça, ce soir, ça va être un beau cocktail dont on va discuter. Et on n'a pas parlé encore des microbiomes, c'est-à-dire les bactéries qu'on a dans notre intestin qui nous permettent d'absorber ou de ne pas absorber mieux. Absorber quoi? Ça s'est modifié au cours des années. Donc, ça aussi, c'est un mystère. Alors, on va parler de tout ça. On va répondre à vos questions. Quel numéro?
514-790-9850. Ça, c'est à Montréal. Partout au Québec, 1-866-790-9850. Messagerie texte 98985. Et je ne sais pas si vous voulez en parler tout de suite, peut-être garder ça pour plus tard,
ouais.
Mais on parlait tantôt, avant l'émission, l'indice de masse corporelle.
Ouais.
À prendre avec...
Des pincettes.
Ben, j'allais dire ça.
Avec apprendre des avec des pincettes parce que ce n'est pas un critère unique de maladie ou de santé. Par contre, le tour de taille, docteur Després de Québec, ça fait longtemps qu'il nous prône cette donnée-là. Les hommes en bas de 1,2 mètre, les femmes en bas de 88 cm, ça, c'est plus un indice de santé. Et si on a, avec l'alimentation, il a donné un supplément de noix, puis il a donné un supplément d'huile d'olive, il y a des gens qui ont gardé le poids, perdu du poids, gagné du poids, mais dès que tu descendais ton gras intra-abdominal, scan le prouver, on avait une diminution des paramètres d'inflammation au niveau maladie cardiovasculaire. Donc, ton tour de taille semble être un critère beaucoup plus important qu'au niveau de l'indice de masse corporelle. Fait que tu perds du poids de taille, puis t'en perds pas ailleurs, puis tu vas pleurer. Non, t'as déjà gagné.
Doc, ce soir, on parle obésité.
Oui.
Vous voulez que les gens nous appellent?
Oui.
On se confie ce soir? On pose des questions, vous allez démystifier des
mythes. On essaie de démystifier.
On va décortiquer tout ça. Je vous rappelle les numéros de téléphone. Je vois que ça sonne déjà. Je vais aller vous répondre dans un instant. 514-790-9850 à Montréal. 1-866-790-9850 si vous êtes ailleurs au Québec. Et 98985 pour la messagerie texte.
Oui, puis on accueille Nathalie. Bonsoir, Nathalie.
Hey, bonsoir, Doc Laberge.
Comment ça va?
Oh, ça va bien. Et vous?
Hum... Numéro un, cher.
Oui, bon, écoutez-moi, je trouvais ça important de vous appeler parce que je fais partie de ces gens qui sont trop enveloppés, comme on dit.
Trop confortables, comme dit Obélix.
C'est, oui, peut-être ça. Puis oui, obèse également.
Oui.
Et je me suis fait proposer, là, je dirais, là, mille et une solutions. Ça arrive toujours, là, avec... la petite pilule magique, là, ouais. Tu sais, qui va aller vite, 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 là. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, si, mettons, ce serait une personne avec un problème d'alcool.
Ouais.
On va dire, prends cette petite pilule-là, puis ça va t'enlever à soi.
Ouais.
Bon. Donc, à un moment donné, c'est ce que j'ai réalisé, qu'il y a pas vraiment de
solution
de
rapide.
Pilule, mais non. Exactement.
Non.
Puis, j'ai découvert un groupe anonyme. On n'est pas censé en faire la publicité, mais c'est basé sur les mêmes...
Les
mêmes dogmes. Oui, les principes, c'est ça, des AA avec Bill quelque chose, en tout cas.
Mais il y avait donc, les outre-mangeurs, il y avait les obèses anonymes.
Ben, c'est en plein ça.
C'est
oui, outre-mangeurs anonymes.
C'est ça.
Et j'ai perdu beaucoup de poids en assistant à ces réunions-là, qui sont gratuites.
Oui.
Fait que c'est pas, là, paye-toi un coach, puis va voir ton psychiatre, c'est ça. Puis là, tu vas juste t'asseoir là, puis avec l'énergie du groupe, il arrive vraiment des miracles comme qui m'est arrivé dans les AA.
Oui. Donc, la force du groupe pour certaines personnes, c'est très important. Puis l'engagement qu'on prend envers soi-même. Puis le plaisir de la découverte. Êtes-vous d'accord avec moi, Nathalie? Le plaisir d'essayer des affaires, le fun.
Oui, exactement. Puis lorsqu'on repart de ces réunions-là, là, présentement, ils sont en vidéoconférence là, pour les raisons qu'on connaît. Et quand on a terminé, là, on sent c'est comme si on revivrait, là, tu sais, on se sent moins vulnérable devant la nourriture. Et c'est vrai que c'est vraiment une maladie qui nous affecte, comme l'alcoolisme, là, émotionnellement, psychologiquement parlant.
C'est un ensemble.
Oui, exactement.
Ouais. On peut pas isoler. Oui, tout à fait.
C'est ce que je voulais ce que je voulais apporter comme information.
Ben, merci beaucoup, Nathalie. Vous avez tout à fait raison. La force du groupe, l'engagement envers ce groupe-là, c'est très important. Et aussi l'engagement surtout envers soi-même et se mettre des objectifs à dimension humaine. Alors, on va aller à la pause et on va reparler de ça ensuite. Les lignes sont pas mal remplies, je vous dirais. Alors, à tantôt. Nous revoici ce soir, on se parle d'obésité, mais c'est tellement drôle parce que dans notre bocal, on a des caméras, on a des appareils TV et on a CNN qui nous annonce un produit miracle contre le ballonnement et ça fait fondre la graisse.
Ah oui, c'est pas le premier produit miracle. Hein?
Sens du timing. Hein?
Mais justement, il y a quelqu'un qui vous pose une question concernant le régime cétogène.
Cétogène, oui.
Je pratique cette alimentation depuis 5 mois et avec le jeûne intermittent, j'ai perdu 50 livres en 5 mois.
Parfait, on va voir dans 5 ans, OK? Mm. Parce que dans 5 ans, la moyenne, c'est 2,5 kilos de perdu.
OK.
Parce que quelqu'un peut, en général, pas se garder au cétogène. La diète cétogène remonte à 1925. Et c'était une diète qui était donnée aux enfants qui faisaient des convulsions récalcitrantes à tout produit, tout médicament, tout traitement. Et ils ont dit, la logique de l'histoire, c'est qu'ils ont dit, on va assoiffer le cerveau ou on va affamer le cerveau en glucides, qui est son carburant principal. Comme ça, on va forcer les autres types de sucre à se défaire en ayant de l'acétone, qui est le produit de dégradation d'urgence du sucre. Et comme ça, en affamant le cerveau, on va empêcher qu'il carbure puis qu'il fasse des convulsions. Et il y a un tiers qui avait une réduction des convulsions, un tiers qui avait rien du tout comme amélioration, puis un tiers qui s'est augmenté. Ça fait qu'ils ont dit, on va garder ceux qui ont une amélioration et on va les suivre pendant 2 ans, ce qui diminuait les convulsions et ce qui favorisait le développement des enfants qui avaient ce problème-là. Au bout de 2 ans, cependant, compte tenu de la croissance, compte tenu de tous les muscles, toutes les hormones et tout ça, bien, ils ont recommencé tranquillement à remanger de façon normale, correspondant à leurs besoins de croissance. Et il y en a qui ont été améliorés par rapport à leur état de base. Est-ce que c'est une diète qu'on maintient longtemps et qui est suggérée de maintenir longtemps? La réponse, c'est non. Tu as une perte de poids fantastique, mais tu as une remontée de poids parce que socialement, c'est une diète difficile à suivre. C'est en général 5 % puis après ça, de l'accommodation à 10 % de sucre dans ton alimentation, sucre étant les fruits, les légumes, les pâtes, tout ce qui contient des glucides. Alors, c'est très, très, très sévère et ce n'est pas une diète actuellement recommandée pour le grand public et pour être une méthode à succès. Succès voulant dire maintien du poids.
Ah ouais, OK. Sur le long terme.
Sur le long terme. Un peu comme les médicaments. Les médicaments, c'est souvent marqué, doit être accompagné d'une saine hygiène de vie, d'un programme d'exercice et d'une alimentation variée. Là aussi, si tu prends juste les pilules, tu ne changes rien, tu as à peu près 2,5 kilos de perdu au bout de l'année à 150-200 $ par mois de pilules.
Tu as un élément sur trois.
Ouais.
Donc, ça a une chance sur trois que ça fonctionne.
Mais dans les convulsions, pas dans la perte de poids, dans la convulsion.
Mythe ou réalité, c'est une question ouais, qu'on nous pose via texto. Le sucre est une drogue.
Ça dépend pour qui. Est-ce que vous êtes une personne à dépendance ou une personne à non-dépendance? Si vous êtes une personne à dépendance, oui, le sucre, c'est un peu comme le sel, c'est un peu comme n'importe quoi. Quand tu décides de diminuer ton sucre raffiné, ton sucre que tu additionnes dans les produits, par exemple, je te donne un exemple, OK? À l'université, on avait souvent ça. Tu sais, tu prends un sucre, un lait dans ton café. Mais à un moment donné, tu n'as plus de sucre. Hein? Bien, tu vas t'en passer. Puis tu vas t'habituer à prendre ton café pas de sucre. Tu vas te dire, bien, finalement, quand tu remets ton sucre dedans, bien, arc, c'est bien trop sucré. Donc, tu habitues ton goût et tu habitues ton corps à se satisfaire avec moins de sucre. Les patients diabétiques, quand tu leur annonces qu'ils sont diabétiques, ils disent, ah, il faut que je coupe le sucre. Bien, non, regarde, on n'est pas dans l'urgence nationale, là, à moins que tu prennes 6 cuillères à soupe de sucre dans ton petit café du matin, là. Mais si tu prends une cuillère, là, ce qu'on va faire tranquillement, c'est que tu vas prendre une demi-cuillère pour un mois, un quart de cuillère pour un mois, puis tu vas diminuer tranquillement. Puis tu vas augmenter tes légumes, tu vas augmenter ta sensation de plénitude, de satiété. Et à ce moment-là, tu vas avoir du plaisir à planifier tes repas. Tu vas avoir du plaisir à calculer tes glucides. Mais les glucides comme tels sont toxiques chez certaines personnes qui en mangent une quantité importante. Mais chez la moyenne des gens, tu en as besoin des glucides. Et c'est pas vrai que toutes les personnes vont commencer à en prendre puis vont en avoir besoin de plus en plus.
Doc, je rappelle les numéros de téléphone. On parle prise de poids, embonpoint, obésité ce soir. On décortique la question et on prend vos questions. Je vous laisse aller parler avec Lilia, mais je rappelle les numéros de téléphone avant. 514-790-9850 pour Montréal. 1-866-790-9850 partout au Québec et 98985 par texto.
Alors, on souhaite une bonne soirée à Lilia. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Je vous souhaite une bonne année.
Merci à vous aussi.
Merci beaucoup. Voilà, je vous appelle parce que il y a 8 mois de cela, j'ai pris du poids là, c'est incroyable là. Et d'habitude, quand je prends du poids, je maigris rapidement. Là, j'ai tout essayé, tous les régimes. Je suis même mise là au régime cétogène. Là, je mange keto, je fais du sport, rien. Je me mets sur la balance, rien, ça bouge pas. Je sais pas si c'est un rapport avec la préménopause ou. Je suis complètement, là, je vous dis, je suis complètement.
On parle de combien de poids, Lilia?
Oh oui, je vous dis au moins 10 kilos. Hein.
10 kilos, OK.
Oui.
Alors, théoriquement, il faut aller voir s'il n'y a pas d'autres causes, hein, on le sait. On va aller voir des problèmes de thyroïde, on va aller voir s'il n'y a pas d'autres questions à remplir, puis on va aller voir comment votre profil se modifie. On sait qu'à la ménopause, on a beau chialer, on a beau... Oui, on va se prendre un 12-15 livres qu'on n'a pas demandé avec... Pourtant, on a l'impression de manger de la même façon, on a l'impression de bouger de la même façon, on a l'impression de tout faire comme on faisait avant. Donc, il y a des fois des raisons. Il y a des gens qui vont prendre du poids aussi avec la prise de médication type antidépresseur. Il y a des gens qui vont avoir des raisons. Certains médicaments vont augmenter la prise de poids. Mais ce n'est pas... Je vous dirais que c'est pas un calcul mathématique. T'en rentres plus, donc ça veut dire que tu vas engraisser. Il y a des gens qui vont avoir un ralentissement de métabolisme pour des raisons X, Y et que ça va donner une prise de poids. Si la prise de poids, elle est d'un coup sec, comme vous prenez un 20 livres, mais ça fait un an que vous êtes avec votre 20 livres puis ça bouge pas, quoi que vous fassiez, ça veut dire que le processus a été arrêté. Donc, il faut surveiller, il faut regarder. Et je vous dirais que des fois, quand c'est la fichue ménopause, mais que vous, supposons que vous prenez 12 livres quasiment en un an, mais que ça fait déjà un an de ça et que ça bouge plus. Vous êtes en santé, vous êtes égal, vos paramètres de santé, vos tests sont tous beaux, etc. Des fois, il faut apprendre à vivre avec le 12 livres de plus. Ça dépend d'où vous partez. Si vous avez un indice de masse corporelle et un tour de taille qui se maintient en bas de 88 cm, ça vaut la peine des fois d'apprendre à accepter qu'on va avoir ce poids-là plutôt que de paniquer là-dessus, de s'en faire toute la journée et de virer à l'obsession.
Oui, c'est ça. J'ai pas le choix. De toute façon, hein, je vais finir par laisser tomber parce que ça me rend malade. Là, c'est j'ai ça. Tout essayé là. Ouais. Et bon, ouais. C'est ça. Mais pour les analyses, là, ce que vous m'avez dit, j'ai fait mon bilan. Ouais. Tout va bien.
Ouais.
Donc, c'est vraiment d'après le médecin, là, c'est peut-être que la pré-ménopause, là, je suis en plein dedans.
C'est ça. Ça se peut que vous ayez pris ça et malheureusement, vous allez devoir apprendre à vivre avec. Mais je vous souhaite bonne chance parce que c'est pas évident. Bonsoir. On a M. Denis au bout du fil. Bonsoir, M. Denis.
Oui, bonsoir. Ça
oui.
va bien?
Oui, ça va bien. Vous?
C'est la première fois que je vous appelle. Je suis heureux de vous parler.
Ben moi aussi, je suis heureuse de vous recevoir. C'est une première.
Oui. Et moi, je suis quelqu'un qui est pas obèse, qui a toujours été, qui a conservé son poids depuis plus de 40 ans.
Mm-hmm.
Je cultive la majorité de ma nourriture.
OK. Vous êtes autosuffisant. Ouais.
Je suis autosuffisant. J'ai plus de 90% que je cultive ma nourriture. Puis tantôt, quand tu as parlé du sucre,
ouais.
que le monsieur il en avait diminué, puis après ça, c'était méchant.
OK. Ben oui.
Je fais aussi mon sucre. Là. Je prends du sirop d'érable, puis je fais du sucre d'érable.
Ah, oh, chanceux.
Du sucre. À comparer du sucre blanc,
ouais.
quand à un moment donné, je suis pris, puis j'en ai pas, puis je mets ça dans la recette, là,
ouais.
ça me tombe sur le cœur. Là, hein?
C'est une question de goût, parce que du sucre, c'est du sucre. T'sais, en termes de calories, une cuillère ouais, à thé de sucre, c'est une cuillère à thé de sucre. Mais le goût, c'est pas pareil. Ben non.
Le pouvoir sucrant du sucre blanc, à mon avis, est beaucoup plus grand que le pouvoir sucrant du sucre d'érable.
Ça dépend de la concentration. Oui, votre sucre d'érable,
c'est. Oui, c'est ça.
C'est le
sucre d'érable, probablement, il est moins sucrant parce que tu fais une recette, un dessert, exemple, là, puis tu vas t'écœurer plus vite avec le sucre blanc que le sucre brun.
Oui, ça, je suis d'accord avec vous.
Il tombe sur le cœur.
C'est là, tellement là. Bon, le sucre d'érable. Arrêtez, vous allez me donner la faim. Mais vous êtes en santé, c'est ça que je comprends.
Pour l'économie, je le fais pour... Je vais mourir en santé, je pense.
Oui, bien, c'est une bonne chose. Les gens disaient, les gars, ils disaient souvent mourir des mains de Marie Jaloux, là, mais c'était la blague classique du gars en santé qui mourait. Mais je vous souhaite de vous garder en santé. Vous avez l'air en santé, vous avez l'air en harmonie avec votre activité physique.
Tantôt, tu parlais que les gens... Il y avait 25 % de la population qui était obèse.
Mm-hmm.
C'est pas assez généreux. Moi, je mettrais un autre 25 % Moi, j'ai des vieux journaux agricoles ici. Là, en
oui.
1966, il y a un journal qui était spécialisé dans l'agriculture, mais il y avait beaucoup d'articles pour les femmes. En 1966, il y a une dame qui disait qu'elle s'inquiétait de l'obésité.
Mm-hmm.
Mm-hmm. En 1966.
Oui, ben oui.
Ça fait longtemps qu'on en parle, puis le problème n'est pas tout à fait réglé encore. Là, hein.
Ah, puis ça ne sera pas réglé tout de suite, parce qu'on n'est pas fait pour avoir tous la même forme. Si vous regardez
ouais,
le profil de Marilyn Monroe, aujourd'hui, là, même si elle n'était pas gonflée de nulle part, là, artificiellement, s'entend, ça ne passerait pas. Là. Les vedettes des années 40, là, pendant la guerre, puis tout ça, là, passeraient pour des obèses aujourd'hui, là. Alors, oui, notre image a changé et les femmes ont des corps différents aujourd'hui qu'elles ne l'avaient autrefois en plus.
À cette époque-là, ça regardait bien d'être rondelette. Aujourd'hui, c'est plus la même chose.
Ben, il n'était pas rondelette. Il y avait un poids tout à fait normal, avec une taille
ouais,
tout à fait normale, puis une santé tout à fait normale.
Si on les compare à aujourd'hui, il était rondelette.
Oui. Hey, je dois vous quitter parce que là, on s'en va aux nouvelles. Je vais me faire couper la tête. Alors, merci beaucoup d'avoir appelé puis j'espère qu'on va se reparler.
Si, bonjour.
Bye. Alors, comme vous le savez, ce soir, on parle d'obésité, mythe et réalité. Et vous nous rejoignez au 514-790-9850 ou 1-866-790-9850 et le texto 98985. Alors, Maxime, on a reçu des questions.
Oui, justement, 98985, les gens ont beaucoup de questions sur le sujet de ce soir. Claude André, je vous lis quatre questions. La première, Claude André. Entre l'obésité, la sédentarité et le tabagisme, qu'est-ce qui est pire pour la santé?
Je te dirais que la sédentarité serait probablement...
Ah oui?
Le tabagisme, c'est clair que si on l'arrête, c'est vraiment un poison vif. C'est un inflammatoire maximum. Et on dit que quelqu'un qui fume, par exemple, un demi-paquet par jour, c'est surtout à la ménopause, là, c'est l'équivalent de 60 livres de poids de plus dans ton sac à dos. Donc, c'est un poids énorme et on augmenterait de 600 % ton risque vasculaire parce que avant la ménopause, tu as ta protection de fille au niveau estrogénique. Après la ménopause, tu n'as plus cette protection-là. Tu redeviens comme, entre guillemets, un homme au niveau facteur de risque. C'est important d'arrêter de fumer, surtout autour de la ménopause chez les femmes.
600 %
600 fois plus, oui.
Wow!
Et au niveau... C'est pour ça qu'on perd notre protection. Deuxièmement, la sédentarité est peut-être celui qui est le plus facile à corriger parce que tu peux être obèse, tu peux fumer un peu, mais si tu diminues ton tour de taille et que tu augmentes ton exercice... Tu as deux anti-inflammatoires que tu viens de mettre en action. De bouger, c'est anti-inflammatoire, et de diminuer ta graisse intra-abdominale, c'est-à-dire celle qui est surtout au-dessus du nombril, tu sais, la bédaine de bière,
ouais,
finalement.
Ouais, ouais, ouais.
Bon, ben si tu diminues ce gras-là, même si tu n'as pas perdu de poids, tu as perdu juste du tour de taille, tu es déjà en train de travailler ton anti-inflammation. Donc, c'est pour ça que les trois sont très importants. Mais je dirais que je commencerai par la sédentarité.
Et le lien est bon. En fait, on parlait de gras abdominal. Ça nous amène à notre deuxième question, dont Myriam. Il y a plusieurs personnes qui nous ont posé la question, dont Myriam. Pourquoi le bas du ventre chez les femmes refuse de partir? La graisse abdominale, on le fond comment? Et Myriam demande, est-ce que le cool sculpting est une solution efficace pour cibler cette zone?
On ne parle pas de la même affaire. C'est-à-dire que le gras intra-abdominal, c'est celui qui est surtout au-dessus du nombril et il est à l'intérieur. Donc, ce n'est pas la même sorte de graisse que celle qu'on a sur les fesses à l'extérieur. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la même affaire. C'est deux substances complètement différentes. Et ton cold sculpting, c'est de l'esthétique. C'est à l'extérieur. Fait que tu as beau être maigre comme un chicot, si tu as une graisse... Tu sais, il y a des femmes qui sont minces. Qui sont faites droites, qui sont faites en arrière, c'est comme une planche. Là. Ils ont peu de taille. Et sur le côté, ils sont faites pommes. Donc, ils ont un abdomen. Ces femmes-là sont plus à risque que celles qui ont des gros seins, des grosses fesses, qui est faite comme une poire. Donc, la forme poire est plus difficile à habiller. Des fois, tu habilles 12 d'en haut puis 14 d'en bas. C'est difficile, c'est plate, c'est tannant, mais c'est moins dangereux que celle qui a un tour de taille qui excède 88 cm.
Prochaine question, c'est un texto, je vous le lis. Surpoids, cœur sain, Holter fait il y a un an.
Un Holter, c'est un calculateur de 24 heures sur le rythme cardiaque. Donc, ça va calculer votre rythme cardiaque sur une période de 24 heures.
La personne nous dit beaucoup de stress et RGO.
Reflux gastro-ésophagien. Donc, ça veut dire que ces aliments et l'acidité de l'estomac remontent parce que sa valve qu'il y a entre les deux, entre l'ésophage et l'estomac, n'est plus étanche.
Extrasystole,
c'est une arythmie qui habituellement est relativement bénigne. Ça dépend de la quantité, ça dépend de la cause, etc. Mais en général, des extrasystoles ventriculaires, ça dépend. Là.
Il nous écrit...
En général, c'est plus bénin.
2-3 crises qui durent 1 à 2 mois par année. Produits naturels ou médicaments pour aider, c'est sa question.
Habituellement, médicaments, parce qu'au niveau des produits naturels, le problème qu'on a, c'est pas que c'est toujours mauvais, mais c'est surtout que tu sais pas ce qu'il y a dedans. Un produit naturel, par exemple, qui marque échinacée, bien, c'est-tu la plante au complet? C'est-tu la racine? C'est-tu la fleur? Ça dépend de ce qu'ils ont mis dedans. Et c'est juste marqué échinacée dessus. Je vous donne l'exemple comme ça. Mais donc, on essaie, si on a eu une prescription de médicaments, on essaie de prendre la médication parce que plus tu es énervé, c'est clair que si tu peux dire, je me mets à méditer, je fais mon petit bambou qui est une application, je fais mon respire relax 3 fois par jour, je m'organise pour baisser le stress au maximum, ou en tout cas, pas le stress, mais ma réaction au stress. Donc, je m'arrange pour baisser tout ça. Probablement que le rythme cardiaque va se corriger en même temps et probablement que je vais faire moins d'acidité de mon estomac. Donc, probablement que je vais favoriser la vidange de mon estomac. Je vais manger des plus petits repas à la fois. Je ne mangerai pas après 6-7 heures le soir si je me couche à 10 heures. Je ne boirai pas dans la soirée, mais je vais boire toute la journée pour ne pas avoir soif en soirée. Je vais prendre les mesures qu'on appelle non pharmacologiques d'abord. Et si j'ai eu une prescription de médication parce que tout ça envahit ma vie au point que je ne suis pas capable de prendre ça par un bout ou par l'autre, bien là, je peux me faire aider d'une médication pendant un temps, le temps que je pratique mes meilleures pratiques de santé.
Dernier texto, ensuite je vous laisse aller parler avec Frank. Est-ce que le diabète salé existe?
Non. Un diabète, c'est, on appelle ça diabète sucré, mais c'est une mauvaise utilisation. C'est, le diabète, c'est un peu comme si tu disais, je fais de l'asthme de poumon. C'est pléonasmique, okay. C'est la même affaire.
Bon, la personne nous demande aussi, c'est quoi la principale cause de l'inflammation? Vitamine D est-elle recommandée?
Ça n'a pas rapport, dans le sens où la vitamine D est toujours recommandée parce qu'on est un peuple nordique. On en manque. Il y a beaucoup de gens qui en manquent dans leur vie courante et c'est effectivement quelque chose qui va aider au niveau de l'ossature, qui va aider. Oui, c'est un léger anti-inflammatoire et on le recommande maintenant dans la prévention des cancers, des maladies vasculaires, mais pas en fou. Là. Tu ne prends pas des doses de fou. Là. C'est 1000 unités. Là.
Numéro de téléphone pour nous joindre. Il reste de la place. 514-790-9850 à Montréal. 1-866-790-9850 partout au Québec. Messagerie texte 98985. Je vous laisse parler à Frank, Doc.
Bonsoir, Frank. Merci.
Bonsoir. Ça va bien?
Oui, très bien. Vous-même?
Oui, merci. OK. Concernant le sucre dans le café, je suis rentré en moto puis j'ai tombé sur le sujet. J'ai expérience et preuve. OK? Dans le sens que nous, moi et ma femme, on consommait du café, café régulier ou café espresso avec du sucre dedans. Au moins un sucre. Ensuite de ça, moi, de mon expérience à moi, moi, je trouvais que c'était sucré. Mais si tu prends un café dans un, on va les nommer Tim, McDo, Starbucks, peu importe, un petit café ou un grand café avec un sucre, le goût est pareil. Mais c'est pas normal parce que si moi je prends un petit café avec un sachet de sucre dedans,
il devrait être plus
concentré. Je prends un grand café avec un sachet de sucre, la quantité de sucre par volume n'est pas pareille. Mais j'ai travaillé dans un McDo et la façon qu'ils calibraient la machine de sucre, c'est pas des sachets, c'est la machine on pesait sur un bouton. La quantité de sucre qui tombe, c'est pour donner le même goût que ce soit un petit ou un extra large. Donc, j'ai fait l'expérience, ma femme me croyait pas. J'étais au Tim Hortons, j'ai demandé un verre vide, j'ai dit pèse sur le bouton de un sucre dans un verre vide. Je voulais juste l'apporter à la maison. Bref, un sucre dans un grand café chez Tim Hortons, c'est l'équivalent de 4 sachets de sucre. Donc, si moi, je me dis dans ma tête, j'aime le café avec un sucre dedans, je vais au Tim Hortons, là, je me dis, à chaque jour, je prends un café, moi, juste un sucre, ça me suffit. Mais en réalité, on prend 4 sucres.
Écoutez, si vous le dites, j'ai pas de vérification là-dessus.
Mais je vous invite à laisser. Je vous invite à faire l'expérience.
Mais ça me surprend parce que cet été, je lui ai pris un café glacé, puis j'ai demandé sans sucre. La petite fille s'est trompée. J'ai fait oh boy que c'est sucré. Puis je suis sûre qu'il y avait plus qu'un sucre dedans.
Si vous faites comme j'ai dit comme exemple, si vous prenez le petit café ou l'extra large, c'est le même goût. Mais c'est impossible que ce soit le même goût avec un seul sucre.
Absolument, parce qu'un sucre, si tu le dilues 3 portions ou une portion, ça goûte pas pareil. Merci beaucoup.
Et depuis ce jour-là, on boit le café sans sucre parce qu'elle a dit comme elle a réalisé qu'on mangeait beaucoup de sucre dans le fond.
Absolument. Puis le sucre caché, vous avez tout à fait raison, dans les cafés dits spécialités et tout ça, là, et ciboulette que ça contient du sucre. Merci beaucoup de nous mettre en garde.
Faites le calcul la prochaine fois, demandez un sucre, puis vous allez voir.
Très intéressant. Merci beaucoup.
Bonne fin de soirée.
Bye bye. Monsieur Michel, bonsoir.
Bonsoir, très content de vous parler.
Ben moi aussi.
Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe avec la glande thyroïde. Je suis en hyperthyroïdie, puis j'ai bien de la misère à perdre du poids, puis on me dit tout le temps, oui, on peut en perdre, non, tu peux pas en perdre. Qu'est-ce qui arrive avec ça?
OK, la glande thyroïde, c'est une glande qui sécrète une hormone qui s'appelle la thyroxine. Et ça, c'est stimulé par une hormone dans le cerveau, c'est-à-dire de la glande hypophyse, qui s'appelle le TSH, Thyroid Stimulating Factor, hormone en fait. Alors, quand ma stimulante, on va l'appeler comme ça, va stimuler ma glande thyroïde, mon hormone va monter dans le sang. OK? Quand ma glande travaille trop, ma stimulante, elle va se calmer le pompon puis elle va baisser. Donc, plus mon hormone est sécrétée, plus ma stimulante va paraisser, plus mon hormone produite par ma glande est basse, plus ma stimulante va frapper dessus pour la forcer à produire. Jusque-là, on s'entend bien? C'est compris? Oui. Parfait. Donc, quand de façon autonome. Ma glande part en folle, puis elle se met à produire plein d'hormones, comme par exemple dans une thyroïdite, une inflammation de la thyroïde. Là, à ce moment-là, ça va monter, monter, monter. Quand mon hormone est trop haute, je vais me sentir comme si j'avais pris 12 cafés, c'est-à-dire que je vais avoir des tremblements, je vais manger plus, je vais dormir moins, je vais avoir des diarrhées. C'est vraiment là, le principe d'être excité, d'avoir faim, de perdre du poids, etc. Sauf que ma glande va s'épuiser à la longue et tranquillement, mon hormone va baisser, baisser, baisser. Et dépendant des symptômes que j'ai, ça peut m'amener, si j'ai une thyroïdite qui va complètement faire fonctionner ma glande à 100 à l'heure, bien là, je vais aller voir le docteur parce que je vais me sentir tellement mal, je vais perdre du poids puis tout ça, qu'il va la doser. Il va dire, oh là là, ça va beaucoup trop vite. Alors, il peut me donner des médicaments, il peut décider de brûler ma glande pour arrêter qu'elle travaille en folle. Et après ça, là, comme mon hormone ne sera plus sécrétée ou très peu, il va me donner un supplément sous forme de synthroïde. Synthroïde, c'est à peu près la substance la plus vendue avec les hypocholestérolémiants au Canada parce qu'on est très atteint du débalancement de notre glande. Si ma thyroïde est très, très basse en fonction, mon stimulant va monter beaucoup jusqu'à ce que je donne la dose nécessaire d'hormones thyroïdiennes pour que l'autre, celle de l'hypophyse, mon stimulant se taise, se normalise. Mais pendant cette période-là, je peux prendre du poids parce que tant que mon hormone thyroïdienne n'est pas suffisamment sécrétée pour mes besoins, ça va donner le contraire de mon excitation que j'avais tantôt, ralentir le rythme cardiaque. Ralentir des fois même mes pensées. Je me sens bedoum bedoum. Je peux gagner du poids. Je peux avoir... Tout va ralentir dans mes fonctions, contrairement à tantôt où j'avais l'impression de prendre 12 cafés. Alors, cette réaction-là, le temps de s'adapter avec mes dosages réguliers de médication, c'est une difficulté où le poids peut monter, descendre. Tu sais, on est vraiment dans l'instabilité. Puis le reste, vous vous sentez aussi un peu patraque des fois, plus fatigué, plus énergique, plus énervé, moins énervé. Ça joue beaucoup sur tous les paramètres. Un petit peu de diarrhée, un petit peu de constipation, la peau sèche, la peau pas sèche, les cheveux qui cassent pas, les ongles qui cassent pas.
Ouais.
Donc, on est en déséquilibre. Le temps qu'il retrouve la bonne formule. Ça répond-tu à votre question, M. Michel?
Tout à fait.
Bon,
tout à fait.
Parfait, excellent. Aviez-vous une autre question?
Non, mais là, moi, ça fait 16 ans qu'on essaie de stabiliser, puis là, ça monte, ça descend tout le temps.
Ah,
c'est là, je suis rendu avec 1,37 4 fois par jour, 4 fois par semaine, et puis 3 fois 1,50.
Ah ben oui.
Fait que ça fait 16 ans, puis... J'ai toujours des symptômes qui m'apparaissent, la voix rugue, des tremblements, d'insomnie, rien que je dors plus pantoute.
C'est ça. Et hey, vous êtes un, entre guillemets, un beau casse-tête pour les endocrinologues, hein? Et bye-bye.
Oui.
Pauvre
oui,
vous. Oui, ben, en tout cas, je vais vous souhaiter quand même que le meilleur vous arrive, puis j'espère qu'un jour, vous allez trouver votre état stabilisé, puis que vous soyez au moins un petit peu égal pendant un bout de temps. Alors, je vous souhaite bonne chance, M. Michel. Merci beaucoup de votre appel.
Merci beaucoup.
Bye. Rose? Une pause! Alors, on s'en va à la pause. Geoffroy vient de me faire signe que j'étais un peu délinquante. À tantôt. Alors, on parle à Mme Christina. Bonsoir, Mme Christina.
Salut.
Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, chère?
Ben moi, c'est comme un témoignage parce que moi, j'ai toujours été grossette, grosse ouillette.
Ouais.
Puis une fois dans ma vie adulte, c'est là que je me suis acceptée puis j'ai dit, je suis grosse ouillette, mais je suis belle puis je m'accepte.
Mm-hmm.
Puis il y a quelques années, je me suis commencé à me mettre en forme pour ma job.
Ouais.
Mais pas dire je veux perdre du poids, je me mets en forme, j'ai commencé à m'entraîner 1 heure par jour. Je perdais du poids, oui. J'atteignais un plateau, c'était pas grave. Je continuais à m'entraîner.
Mm-hmm.
Et c'est là que j'ai découvert que j'avais une maladie.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Hypertension intracrânienne.
Ah, OK.
Oui, fait que c'est ça. Ça, ça faisait que j'avais du liquide dans mon boîte crânienne qui essayait d'écraser mon cerveau, mm-hmm. dans le fond. Mm-hmm. Pendant un an, qu'est-ce que les médecins faisaient? Prends ces médicaments-là, perds du poids.
Okay.
Mais c'est toujours le perdre du poids parce que si tu as moins de poids, ça va mieux aller. Pendant un an de temps.
OK.
Pour que finalement, on m'opère et qu'on met un valve.
Ouais.
Fait que là, j'ai un valve. Ça fait 3 ans, ouais. juste avant la pandémie.
Mm-hmm.
J'ai encore des mal de tête. Quand je fais des efforts physiques.
Oui, oui.
Et le consensus, c'est perdre du poids.
Oui, regarde. Vous êtes coincé, c'est ça. Mais c'est parce
que... C'est toujours cette servicieux-là, mais ça a toujours été ça de toute ma vie.
Exact.
Ça a toujours été perdre du poids. Je ne suis pas quelqu'un qui s'assoit, qui mange un sac de chips à tous les soirs. Pas,
moi, dans ce temps-là, quand, par exemple, bien, quand les médecins disent... Moi, j'avais une jeune fille qui était une ex-anorexique. Elle était bien contrôlée. Et cette fille-là, à un moment donné, a mal dans le dos. Elle pèse, à mesure 5 et 5 à peu près, puis elle pèse à peu près entre 125 et 130. Donc, elle a un poids tout à fait normal. OK? Elle arrive chez le médecin, puis elle lui dit, j'ai mal dans le dos parce qu'elle avait fait un effort, entre autres, puis ça... Ben, il dit, c'est normal. Il dit, perds du poids, puis ça va se régler. Hey, elle a-tu perdu son poids comme anorexique? 10 livres dans la semaine, puis c'était fait, hein? Sauf qu'il a fallu réparer les torts que ce médecin-là lui avait causés, parce que c'est une réponse qui, malheureusement, moi, j'avais un collègue à un moment donné qui avait les madames qui avaient un surpoids, ils mettaient tout nu en petite bobette devant le miroir, puis ils disaient, penses-tu vraiment qu'un homme a le goût de ça, là? Ça allait jusque-là. Ce que je vous parle, c'est il y a 40 ans, mais c'était quand même ça, et c'est des fois encore un peu, hey, t'as juste à t'enligner, là, puis c'est pour ça que l'OMS, cette année, a reconnu l'obésité comme un problème de santé, comme une maladie, et le poids n'est pas le même pour tous. L'autre affaire, pour aller dans votre sens, Mme Christina, c'est que la madame, là, qui pèse, par exemple, à mesure 5 et 5, puis elle pèse 160, mais elle pèse 160 depuis 10 ans. Entre guillemets, si c'était une grosse cochonne selon le mythe habituel, là, ben elle prendrait 5 livres par année, on s'entend. Parce que si c'est une outre-mangeuse, elle va toujours engraisser. Si tu pèses 160 livres depuis 10 ans, 15 ans, c'est parce que tu es stable à 160 livres, que c'est ton poids à toi. On peut faire perdre une dizaine de livres si tu te mets à faire de l'hypertension puis tout ça, mais on ne perd plus des poids de fou. C'est plus ça le but. On parle pas d'obésité morbide, c'est autre chose, mais on parle de l'obésité dont, en tout cas actuellement, vous semblez faire mention. Et malheureusement, on n'est pas toutes faites pour avoir la même structure, avoir tout le même genre de poids, le même genre de taille. Tu sais, il y en a qui vont avoir des grosses fesses, il y en a qui vont avoir des gros seins, il y en a qui vont avoir des petites tailles, il y en a qui vont avoir des petites tailles de bio, il y en a qui vont avoir des grosses... On n'est pas faites sur le même modèle et il faut apprendre à le reconnaître. Alors, ben merci beaucoup, Mme Christina, de votre témoignage et je vous encourage à continuer de vous sentir bien dans votre peau. Alors, M. Benoît, bonsoir.
Bonsoir. Et juste avant, faire une parenthèse, pour répondre à votre médecin d'il y a 40 ans, oui, aujourd'hui, il y a des hommes qui aiment des femmes rondes.
On va y passer le message.
moi, j'ai une question. Je suis dialysé 3 fois par semaine.
Oui, oui.
J'ai une insuffisance rénale, puis mon poids joue beaucoup.
Ben oui, ben oui.
Puis pourtant, il m'enlève rien comme liquide.
Non, mais vous avez un débalancement. À chaque fois que je vous nettoie, vous avez des hormones qui fichent le camp, vous avez des électrolytes qui fichent le camp, vous avez des vitamines qui fichent le camp. Il faut remettre ça, il faut repartir ça. C'est un méchant déséquilibre qu'on cause. On essaie de balancer, là, tu sais, c'est clair. Mais vous n'êtes pas balancé au quart de tour, là.
Parce qu'on parle d'une perte de poids de 3, 4, 5 kilos ou d'une prise de poids de 3, 4, 5 kilos.
Oui. Oui, ça se peut que vous jouiez beaucoup. Je suis pas experte en dialyse, bien sûr, là, mais vous en parlez avec votre spécialiste parce que effectivement la dialyse, on vous nettoie, tu sais, comme faut. mais des fois, on nettoie un petit peu agressivement, entre guillemets. Tu sais, c'est pas de votre faute, puis c'est pas de la faute de personne. Là, c'est le même que ça se passe. Mais des fois, il y a des substances qui disparaissent aussi en même temps, puis le temps que vous les refassiez, ben ça se régénère, ça part, ça revient. Alors, probablement qu'il y a une sensibilité chez vous à une certaine hormone qui change avec votre dialyse aussi. Et puis, il y a les médicaments qui peuvent aussi donner des pertes et des gains de poids. Ça fait que c'est sûr que c'est pas évident non plus. Mais merci de votre témoignage, M. Benoît. Et je vous souhaite une bonne soirée. Puis on va devoir aller à la pause. Et au retour, on va essayer de faire le tour du jardin. Alors, on parle d'obésité, mythe et réalité, et on accueille M. Serge. Bonsoir, M. Serge.
Oui, bonsoir, Mme Christiane.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire, M. Serge?
Bon, je voudrais vous dire merci aussi au monsieur qui a pris mon appel, il était bien sympathique.
Bon, ben Maxime, remercié.
Bon, moi, j'appelle à propos du thème ce soir, l'obésité. Mm-hmm. Attentons quand j'ai une expression qui dit « une femme, elle a une culotte de cheval ».
Oui.
Cette expression-là.
La culotte de cheval, c'est un dépôt de graisse particulier qui oui. est sur le côté des cuisses et ça s'accompagne. C'est une forme de dépôt de graisse qui est surtout sur les côtés des cuisses, autour des hanches. Et ça, ça fait comme les gens qui font de l'équitation. Tu sais, ils ont une espèce de culotte là, qui est mince autour des jambes puis qui a de l'espace au niveau des fesses et des hanches. Alors, c'est ça qu'ils appellent la culotte de cheval. Et en général, c'est un amas de graisse externe. C'est inesthétique, mais c'est pas dangereux. C'est plate en joie le vert à habiller, mais c'est tout. Et souvent, ça s'accompagne d'infiltrations de type cellulite. Mais nous autres, en médecine, la cellulite, c'est de l'inflammation. C'est un processus inflammatoire rouge, chaud, enflé, etc., une surinfection de la peau. Alors que ce qu'on appelle cellulite dans l'esthétique, c'est des granules, si vous voulez, des petits dépôts, des petites poches de graisse avec du tissu fibreux. Puis ça fait comme une espèce de capiton. Et c'est ça qu'on appelle donc la cellulite esthétique. Et la culotte de cheval, c'est le dépôt de graisse à cet endroit-là. C'est bien plate.
Bon, ben Mme Christiane, ça a tout répondu à ma question.
Bon, ben merci beaucoup.
Merci pour votre émission, j'aime bien ça.
Merci, bonne soirée, vous rappellerez. Alors, si on fait le tour du jardin un peu, il y a des gens qui nous demandent, tu sais, les diètes avec des noms de docteur un ci, puis docteur un ça, ou des diètes de type X. La meilleure diète, c'est celle qui est genre guide alimentaire canadien. Vous avez une assiette ordinaire, vous la divisez en quatre portions. Vous avez la moitié qui sera des fruits et des légumes, le quart qui sera un féculent sous forme de grains entiers le plus possible et l'autre quart qui sera en protéines. Les protéines, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être des protéines de type végétal, les noix, les légumineuses. D'ailleurs, entre vous et moi, quand vous commencez à manger plus de légumineuses, les Mexicains se servent d'une herbe qui s'appelle l'épazote. E-P-A-Z-O-T-E. C'est mexicain, c'est dans la famille de la sauge. C'est Philippe de Vienne qui avait parlé de ça. C'est génial parce que ça vous permet de manger des légumineuses. Par exemple, vous faites un plat de fèves au lard, vous mettez trois feuilles là-dedans, ça ne goûte pas et ça va diminuer le potentiel de faire des gaz, ce qui est le côté socialement inacceptable quand vous mangez des légumineuses. Alors, vous avez les légumineuses, les noix, les viandes, les œufs, le fromage, ça fait partie des protéines. Et dans le reste, si on se force d'aimer, d'apprendre à aimer, à cuisiner, il n'y a rien de plus plate que du brocoli à l'eau. Et pourtant, il y a tellement de belles recettes que vous pouvez utiliser. Découvrez, ayez du plaisir. Consommez vos fruits et légumes de la façon dont vous voulez. Devenez flexitarien parce qu'on introduit de plus en plus de grains, de céréales, de légumineuses dans notre alimentation pour sauver la planète. On diminue un peu les viandes rouges et les viandes de tous ordres. Puis avec ça, on devrait être en santé. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des tailles de guêpes, qu'on va avoir les photoshopées, qu'on va avoir les madames où on dit « elle vieillit tellement bien ». Moi, j'aimerais ça quand on a une revue puis qu'on dit « la fille de 70 ans, elle vieillit tellement bien » puis tu regardes, elle n'a pas une ride. J'aimerais ça qu'on mette le prix de son non-vieillissement en bas. et ça lui a coûté de combien?
On a eu beaucoup de questions parce que je vous ai demandé de répondre là, globalement au régime parce qu'il y a Dominique au téléphone qui voulait vous poser une question sur le régime Gundry.
Aucune idée.
Il y a un autre, on a eu beaucoup de textos concernant d'autres régimes aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de mentionner un petit mot là-dessus là, pour terminer l'émission. Il y a encore des gens sur les circuits. Merci pour vos appels.
Désolé.
Ça a été très occupé ce soir. On a essayé de répondre
le mieux possible.
Le mieux possible et au plus de personnes possible aussi.
Absolument.
On va se retrouver vendredi prochain, Doc.
Yeah, parce qu'on est tanné de voir perdre le Canadien. Au moins, nous autres, on va gagner. Nos auditeurs, on les garde.
Exactement.
Ah, et on en prend soin.
Oui, il y aura quand même un match sur nos ondes.
Oui, tout à fait.
À partir, en fait, il y a un match lundi prochain. Il n'y aura pas de Parlons-nous, mais nous, on sera là vendredi.
Absolument. Bonne fin de semaine.
Salut, Doc.
Bye.